C'est pour Isabelle.
Hein. Ça s'appelle pas.
Non, mais t'as un souvenir, tu veux ou pas?
Si tu veux.
Ouais. Oui, c'est avec plaisir.
Ouais.
Ce sera la première photo que... Bon, bah, merci beaucoup, Isabelle. Ouais. C'était émouvant, en fait, je sais pas.
Oui, bah, moi, j'ai ému aussi.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Ouais. Très bien.
Ben, je vous ai dit ce qui est. Voilà. Je sais pas.
Parce que vous parlez très bien des rencontres de gens qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, surtout.
Oui, et qui n'ont pas la parole aussi.
Et oui.
C'est surtout ça. C'est pour ça que moi, je rejoins quand des écrivains disent un écrivain, ça sert à quoi? Ben, ça sert à donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Et moi, c'est ça qui me plaît. Parce qu'eux, on ne les entendra pas, ça c'est sûr.
J'ai une question. Vous faites partie de l'association Capsule d'Art, non?
Comment?
Capsule d'Art, ça vous parle?
Ah, pas du tout, non. C'est quoi comme association?
Alors, c'est peut-être pas ça le nom de l'association, mais c'est en lien avec cet énoncé. Je crois que c'est ça l'association. C'est je crois que c'est le fonds de dotation qui s'appelle Capsule d'Art, qui vont dans les hôpitaux psychiatriques et qui apportent des peintures, des poésies, d'autres.
Non, je connais pas.
Mais c'est assez récent, je crois.
D'accord. Nous, au Binati, là où je travaille, il y a la ferme. C'est un centre culturel qui fait participer les patients à des ateliers de peinture, à des ateliers artistiques. Enfin, voilà, il y a des spectacles, du théâtre. Il y a quand même un endroit culturel au Binati. Hein. Mmh.
Voyez cette femme dans le tram.
Oui.
Du coup, vous écrivez combien de temps après?
Tout de suite après.
Tout de suite après.
Ah oui, ça sort tout de suite. Ah, oui.
Vous prenez
ce temps-là. C'est pour ça que je dis, j'appelle ça des photographies, parce que je photographie tout de suite la personne, quoi. Et du coup, mes mots, la photographie sur le papier tout de suite, quoi. Donc, pour rien ne se perde, et l'émotion non plus, faut pas qu'elle se perde non plus.
Oui, parce que c'est vrai qu'en attendant, ça peut transformer.
Oui.
On peut peut-être voir autre chose.
Moi, j'ai peur que ça se transforme.
Oui. Oui.
Et vous laissez du temps, du coup, dans la journée pour le poser.
Le texte là, non. Les textes de Maraude, par contre, je m'étais donné, en fait, le lendemain des Maraudes. Je devais écrire absolument le lendemain. Mmh. Et je ne voulais pas retoucher mes textes plus de 3 fois, on va dire. Parce qu'après, je m'étais dit, c'est les trahir, quoi. Et je ne voulais pas faire de la littérature, je ne voulais pas faire du beau. Tout ça pourquoi? J'avais envie vraiment de parler de eux, comment ils sont et comment je les ai rencontrés. Voilà, c'était ça mon. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des photographies. Saisir l'instantané en fait. Un peu comme des haïkus en fait. Hein, c'est un peu comme des. Même si c'est des textes longs, mais. Comment?
Oui, le Polaroid. Polaroid, c'est l'instantané.
Oui, parce qu'on n'a pas le droit de les prendre en photo, ces personnes. Hein. Comment?
Ça sort tout de suite, là.
Oui, ça sort tout de suite, oui, c'est vrai. Merci.
Je trouve ça très beau, ton passage sur le regard. Hein. J'aimerais bien que tu me donnes t'as écrit dessus. Le petit passage. Je ne sais pas si tes textes, on peut les avoir.
Bien sûr. Bah, c'est sur mon ordinateur, je vous l'enverrai. Oui, il n'y a pas de souci.
Et puis on sent que tu as cette capacité à regarder. Que j'aimerais avoir aussi.
Je ne sais pas, moi, ça c'est.
Enfin, en tout cas, en t'écoutant. Non, mais en t'écoutant, c'est ça qui te donne envie. Puis je crois qu'on est. Enfin, moi, je vois dans mon travail, je suis toujours emporté par le rythme, par le. La frénésie du rythme et je vois défiler des gens et je pense que des fois je regarde, je regarde pas comme j'aimerais le regarder, tu vois. Et puis on sent que tu te prends plaisir aussi, enfin t'as du plaisir.
Oui.
Et puis j'avais repéré ça dans tes poèmes, quand tu parles de cet homme là dans son drap, on sent que tu le trouves beau et moi je trouve c'est très touchant parce que il y a peu d'espace pour dire ça en fait. On n'entend jamais une femme soignante dire cet homme il est beau. Alors des fois on entend plus l'inverse, mais et je trouve que c'est important ça. C'est important d'être, d'avoir cette capacité à le voir et à le dire et puis à l'écrire après. Je te remercie pour ça.
C'est vrai qu'il y a même des soignants qui ne veulent pas qu'on rentre là-dedans. Et je me rappelle toujours un patient qui avait dit à une infirmière, tu es belle. Et l'infirmière l'avait tout de suite recadré, lui avait dit, non mais je suis soignante, pas familiarisée de ça. Puis c'est une infirmière jeune, et je lui avais dit, après, j'avais dit, sur le coup, je ne l'ai pas contredit. Puis après, je lui ai dit, tu sais, c'est un petit cadeau qu'il te fait, quoi. Je trouve que c'est bien, tu te rends compte, il te trouve belle, mais je trouve que c'est, bah, je sais pas, tu devrais le prendre bien. Enfin, j'avais tout de suite... Et parce que la sacro-sainte distance thérapeutique... faut surtout pas, hein, Nathalie, c'est ça, faut surtout pas dire des mots, et puis il n'y avait rien de... Au contraire, ce patient, je trouve que c'était tellement bon, parce que c'était spontané, et puis c'est pas quelqu'un qui était toujours dans la spontanéité, et du coup, là, il l'a trouvée belle, et bien il l'a dit, ben, c'était très bien, je trouvais... On ne s'autorise pas à la spontanéité, en fait. C'est ça qui est... Et la beauté, c'est spontané, des fois. Hein. On trouve quelqu'un beau, mais c'est pour pas 3 heures à le trouver beau. Hein.
Ça n'est jamais dit, mais c'est tellement notre quotidien. Parce que je pense que plusieurs fois par jour, on trouve des gens beaux dans la rue. On cherche ça. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vis. Enfin, mais pourtant, ça n'est jamais... C'est très peu dit, et d'autant plus dans le soir. Enfin.
C'est vrai.
Moi, je voulais vous remercier pour la musicalité de vos mots aussi, parce que je vous aurais écouté avec votre voix pendant des heures, en fait. Je trouve que voilà, c'était un voyage dans l'émotion très fort. Et finalement, vous me faites prendre conscience que ce qui peut nous créer en tant qu'humains, nous lier, c'est la langue qu'on utilise, le langage commun. Et là, vous êtes en train de donner de la dignité à ces personnes, je trouve, qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, qui ne parlent pas. Donc en fait, tous ces sens qu'ils n'ont pas, qui devraient normalement donner la légitimité sociétale, vous réussissez à cerner en fait et à aujourd'hui rendre compte de ce qu'ils sont. Et je trouve ça très très fort, quoi. Je suis très bouleversée par ça. Cette notion de dignité, je trouve ça très important en fait, et le regard de l'autre. Donc merci. Tout simplement.
Merci.
Moi, je trouve que dans un monde qui est rythmé, dans cette séquence, en fait, on court auprès du temps. Ces gens-là connectent à une sorte d'intemporalité, un moment presque d'éternité. Et cet instant où il y a cette dame qui regarde avec son bonnet. Et en fait, dans ces moments-là, il y a peut-être... ça me parle cette idée, là où il n'y a rien, il y a tout. Et là où il n'y a pas quelque chose de grandiose, de... regard ou même cet instant, il y a tout. Et vous avez cette don de capter ce moment-là où même en voyant comme ça, peut-être pour quelqu'un qui passerait comme ça rapidement, il n'y aurait rien. Et vous les transformez par vos mots en quelque chose où il y a tout. Je trouve que c'est magnifique.
Oui, vous les rendez humains.
Ouais,
c'est extraordinaire.
C'est magnifique, vraiment.
C'est la première personne que j'entends parler de ces gens invisibles, entre guillemets, de cette façon.
Oui.
Et c'était vraiment touchant.
Oui, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de publier ce livre, en fait. Parce que j'y tenais vraiment très fortement. Il y a même des moments où je lisais des textes, je pleurais parce que je retrouvais la personne et elle était encore là. C'est pour ça que je ne voulais pas retoucher mes textes trop souvent, parce que je savais que la personne, elle disparaîtrait derrière les mots et je ne voulais pas. Et donc, ça n'a pas toujours été évident. Là, maintenant, c'est bien parce que je ne maraude plus depuis... j'ai arrêté en 2018. Et donc, il y a eu du temps qui a passé, vous voyez, et c'est mieux maintenant. Mais sur le moment, c'était très dur d'écrire. C'était comme un accouchement, on va dire. C'était très dur de les revoir et puis de rester dans ces sensibilités-là, vous voyez. Et du coup, souvent, bah, je ne le cache pas, hein, je pleurais quand même en écrivant. Et puis en plus, j'avais mis, vous savez quoi, le CD de Black Star de David Bowie, qu'il avait écrit en étant très malade et qui est sorti après sa mort. Donc, je me mettais dans des conditions, en fait, très profondes, quoi. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir.
C'est
l'huile de son feu. C'est ça, ouais. Je ne me voyais pas écouter autre chose, en fait. Donc. Et du coup, ça appuie encore plus là où ça fait mal, quoi. Mais après, comme je disais, hein, une fois que le texte était déposé, ça y est, quoi. Je pouvais repartir en maraude, je pouvais repartir à la personne. Et au contraire, ça m'aidait à... C'est là où je dis que c'est soignant. C'est que ça m'aidait à retrouver la personne et j'étais bien. Il était dans mon texte et moi, j'étais apaisée. Et voilà, et c'est comme ça que j'y allais. Beaucoup plus tranquillement que si j'avais rien écrit, j'aurais été remuée dans mes émotions et la personne, elle aurait senti mes émotions, ça aurait été horrible pour elle, quoi. Vous voyez, c'est surtout ça aussi. Hein, qui,
J'aurais envie de vous partager quelque chose auquel tes textes autour des maraudes me font penser. C'est assez récent de ma part que quelque chose a basculé en moi quand je passe devant quelqu'un qui fait la manche dans la rue. Depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Et je trouve que ce que tu disais de cet homme qui est resté dans les mémoires de vous tous, tu disais combien pour lui c'était essentiel l'idée que lui ne ferait pas la manche.
Oui.
Et en travaillant à l'hôpital psychiatrique, j'ai parfois croisé des personnes qui ont été hospitalisées et puis qui repartaient finalement à la rue et qui, d'une certaine façon, rejetaient d'autres possibilités.
Ouais.
Et finalement, je crois qu'il y a, donc assez récemment, je me suis mis à être plus sensible à cette force-là qui les tient droit, certains en tout cas. Et à cet aspect de, ben je vais le dire comme ça, de choix.
Oui, tout à fait.
Et ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a rendue beaucoup plus à l'aise à les regarder, la question du regard, et à leur sourire. À leur sourire, franchement, beaucoup plus spontanément. Comme si, je ne sais pas comment dire, tout à coup, je l'ai pris comme... Bon, d'accord, c'est comme ça pour toi, ok, chacun sa route, et la tienne c'est celle-là. Et bien c'est très fréquent qu'il me remercie d'un geste, de toute façon, en général, il me rend mon sourire.
Oui.
Et en fait, je me dis, mais enfin, comment se fait-il que tu aies mis autant d'années pour que cette chose si simple, de sourire à quelqu'un quand tu le croises dans la rue, te devienne assez naturel.
Même leur dire bonjour. Je sais que ça leur fait énormément plaisir de dire
bonjour.
Parce qu'on leur donne en fait ce pouvoir qu'ils existent.
Voilà, c'est ça.
On passe pas de bon comme ça. Et comme si on ne veut pas leur donner d'argent, juste de leur dire bonjour.
C'est ça, je crois que j'étais gênée de ne pas donner de l'argent. Et que du coup, ça...
Moi, j'accepte de ne pas en donner, mais je dis bonjour quand même.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement
parce qu'aussi, ils ne connaissent pas notre vie, ils ne savent pas aussi...
Et puis après tout, rien n'empêche de sourire et de dire bonjour.
Et je pense qu'en fait, ça leur fait plus plaisir des fois aussi d'avoir un bonjour ou un sourire.
C'est un peu le sentiment.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai, ils me l'ont toujours dit. Bonjour, souvent bonjour, moi je dis bonjour, je leur souriais. Merci. Bah, je dis pourquoi? Parce que tu nous as dit bonjour, tu nous as souri. Souvent,
c'est vrai, c'est
important. Ce sourire ne le perdait jamais. Souvent, j'avais ça au camion. Moi, je n'étais pas dans les colis, tout ça, mais souvent, ils me disaient, ne perdez pas ce sourire. C'est très important dans la rue. Quand on est dans la rue, qu'on nous sourit, c'est le cadeau de luxe, on va dire. C'est plus que l'argent, je te rejoins.
C'est le sourire.
Le sourire, oui. ça c'est vraiment primordial pour eux parce qu'ils sont tellement...
Peut-être que vous avez remarqué sur les trottoirs, cette phrase que je trouve géniale, rire comme un éclat de verre. C'est sur les trottoirs.
C'est écrit par terre au pochoir, c'est ça?
Non, c'était écrit par terre. Il y a des phrases qui sont très drôles. Il y en a une autre qui était pas mal aussi. C'est l'avenir est une chance. C'est formidable de lire ça sur les trottoirs.
On a des poètes en ce moment. Ça, c'est ouais,
Pourquoi en fait vous avez arrêté les maraudes?
J'ai arrêté parce que c'était très dur. En fait, je travaillais en psychiatrie à plein temps, hein, je maraudais deux fois par mois. Le vendredi soir, j'en pouvais plus. C'était très fatigant. On rentrait très tard. Et j'ai vu que j'étais en train de m'épuiser vraiment très fortement. Hein. Donc j'ai arrêté parce que j'ai mes limites. Hein, et voilà. Mais je pense qu'il faut savoir aussi mettre un petit moment de répit. Ouais. Et surtout, comme disait Nathalie, moi des fois je revoyais les personnes en psychiatrie dans la rue. Et ça me... C'était horrible pour moi. Ouais. Enfin, pas ceux dont je m'occupais, hein, mais des personnes qui étaient au Vinatier. Ça, c'était dur, quoi. Donc là, c'était compliqué. Et puis après aussi, un petit peu comme cette société, un petit peu de, comme vous dites, on n'a pas le temps. Les maraudes aussi se sont transformées aussi. C'est-à-dire qu'au début, enfin moi, dans les années où j'ai maraudé, on donnait des colis alimentaires, on mettait des sandwichs, des fruits, enfin bref. Et on était vraiment, on avait des points, qu'on va dire des points de rencontre à Jean Massé, à Grange Blanche. Les gens nous attendaient, les précaires, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au camion, ils sont pas forcément à la rue, mais ils ont un appartement très modeste ou un salaire très. Et on a eu des injonctions de l'État, enfin, il faut surtout pas en faire des assistés, quoi. Donc on a arrêté les colis. On a arrêté d'aller dans les points de rencontre, donc c'était compliqué parce que nous, c'est toutes ces personnes, elles étaient abandonnées. Et du coup, ça s'est transformé aussi. Vous voyez, on donnait le café, enfin la boisson chaude, mais on avait arrêté de donner des colis. Et puis moi, après, j'ai maraudé avec des gens, je ne m'y retrouvais pas. Enfin, je disais à Patricia, je ne m'y retrouvais pas du tout. Des gens qui disaient, bon, allez, Isabelle, on y va. Alors que je venais seulement d'enclencher le lien. Il faut du temps pour créer une amorce et créer un lien avec ces personnes. Et des fois, c'est pas en deux minutes. Hein. Et du coup, montre en main, on me disait, Isabelle, il y en a un autre qui nous attend là-bas, quoi. Et moi, j'ai dit non. Alors, si on travaille comme ça, c'est pas la peine. Hein. Moi, je vais pas pouvoir rester. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi qui a fait que j'étais moins chaude pour marauder. Il y a toute une équipe de jeunes, de gens très très bien qui sont partis à peu près tous en même temps que moi. Et là, ça a changé, quoi. Parce que ça compte beaucoup aussi les équipes de bénévoles. On fait équipe, c'est-à-dire que dès l'instant où on est... on va au SAMU social, on mange ensemble, on met les colis dans le camion ensemble, on fait vraiment tout ensemble. Et puis après, quand on maraude, on est une équipe. Hein. En aucun cas, on ne peut être seul avec une personne dans la rue. On est toujours deux. S'il y a un problème, on est deux. Et l'un veille sur l'autre et l'autre veille sur l'un. Enfin, on est toujours... Donc l'équipe est très importante. Et puis après, en fin de maraude, on fait un débriefing dans le camion. On dit qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce que vous avez retenu de la maraude. J'ai aimé beaucoup ces instants-là, parce que c'est là où on dit, j'ai eu du mal avec cette personne, voilà. Parce que ça nous arrivait aussi d'aller à la rencontre de gens en grande difficulté qui ne voulaient pas, qui nous agressaient, hein, qui ne voulaient pas qu'on leur donne des choses, enfin... Donc c'était pas toujours facile. D'ailleurs, il y avait un petit peu un code, c'est-à-dire quand le chef de la maraude, il y avait toujours un chef de maraude qui disait on y va, ça veut dire qu'il y avait un danger et là on monte tous dans le camion, quoi. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette tension quand même. Par exemple, je sais que en tant que femme, petite femme, ça m'arrivait d'arriver à la Part-Dieu, que des hommes. Oh, je descends du camion, que des hommes collés vers nous à demander des colis. Et là, c'est chaud, quoi, parce que là, on est au contact. Un couple peut vite partir à un mauvais mot. Enfin, Et là, je prenais toujours de la ressource dans mon calme, tout le temps, et dans ma douceur. Enfin, contrairement à beaucoup de gens, je maîtrisais rien du tout, mais du coup, j'étais là, oui, bonjour, je faisais tout doucement, et ça passait très bien. Je m'imposais pas, et du coup, ça permettait d'apaiser les choses. J'ai remarqué aussi que ces personnes-là, comme les patients en psychiatrie, ils ont peur de nous, de la relation aussi. Et que des fois, une voix un peu ferme, un peu autoritaire, ça peut les faire clasher ou les faire peur, leur faire peur, quoi. Du coup, il vaut mieux y aller tout doucement. Mais ça s'apprend aussi avec l'expérience. On regarde comment font les autres en maraude. Moi, j'ai beaucoup observé au début dans les maraudes. J'observais comment ils faisaient, les autres, avant de me lancer, quoi. Parce que c'est pas évident. Et puis, comme je vous disais, le camion de livres, ça servait à être un petit peu plus avec une petite contenance, quoi. Voilà. Pour pouvoir aller vers eux. Puis on parle de livres, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui lisent beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Franchement, j'ai rencontré quelqu'un, il me scotchait.
Il lisait surtout des jeunes.
Ouais. Ouais. Il lise énormément.
Et grâce aux boîtes aussi, là, de
comment
livres, hein, grâce aux boîtes
oui. Ouais. Ouais, c'est
une bonne chose qu'ils ont mis.
Ouais.
Non, puis il y a des belles, enfin, de beaux livres, hein, aussi, c'est pas juste.
Ouais.
Et en pratique, il y avait un camion en bibliothèque, quoi. Enfin,
non, c'était... moi je mettais des livres dans une caisse.
D'accord.
Et quand on sortait, bah, les
mais des livres qui venaient d'où?
De Deux-Sitre. En fait, c'est Deux-Sitre qui a une partie qui est dédiée aux maraudes. Et moi, j'étais maraudeuse Deux-Sitre, en fait. J'étais pas maraudeuse SAMU social. Et donc, l'équipe du SAMU social était dans le camion, donnait les cafés, les colis, tout ça. Et moi, j'étais toute seule avec ma petite caisse à livres. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas très à l'aise, hein, donc je bougeais pas de ma caisse à livres. Et j'attendais que les personnes viennent et ils venaient toujours. Il y a toujours un moment donné où une personne venait voir les livres. Ça donnait prétexte à venir voir un peu, puis à parler. Et même après, c'était mes collègues du SAMU étaient jaloux de moi parce que j'avais plus de contacts qu'eux, parce qu'ils se retrouvaient dans la position, voilà, à livrer des colis, à donner des colis, et ils n'avaient pas le temps de parler justement aux personnes dans la rue.
Il n'y avait pas d'échange.
Il n'y avait pas d'échange. Ouais. Ils prenaient leurs colis et ils s'en allaient, quoi. Mmh. Et alors que moi, j'étais avec les livres, et c'est là où ils venaient me parler, et c'est moi qui avais beaucoup plus de relations qu'eux, quoi, du coup. S'il y a une fonction dans les maraudes, c'est pas mal de garder cette fonction du livre. Elle est vraiment là pour ça, pour le langage et puis le lien, quoi, la relation. Mmh. Mmh.
Du coup, les gens choisissaient le livre qui leur plaisait,
oui,
le gardaient.
Oui.
Et puis après, ces gens que tu revoyais parfois, tu
Des fois, ils nous les rendaient. Ouais. Ouais. Il y en avait qui nous les rendaient, puis il y en avait d'autres. C'était des dons de Deux-Sitre. Hein.
Oui.
Ils ont un fonds, je crois. Et puis même, moi, j'avais des amis qui me donnaient des livres parce qu'ils savaient que je maraudais. Mmh. Donc, c'était des dons. Hein, donc,
Et du coup, les gens, après, des fois, te faisaient des commentaires sur la lecture.
Oui. Mmh. Oui. Ça arrivait, oui. Plus rarement, mais ça arrivait quand même. Des gens qui lisaient.
La paille,
tout laisse,
C'est pas donné à tout le monde de faire ça.
Nous on a maraudé des fois avec des députés, enfin des gens de la mairie. Moi je trouve que ça devrait être tout le monde, enfin tous les gens dans leur bureau là-haut, devraient tous faire des maraudes. Franchement, parce que ça humanise vraiment. Hein, la personne qui était avec nous, elle a été émue par les rencontres qu'on a faites. Hein. Ouais. On réalise vraiment...
À quel point les gens...
Ah oui, à quel point... Ouais. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des décideurs dans les maraudes. C'est très bien, je trouve. Faut pas que ce soit qu'un coup de com' non plus, hein, mais... celui qui avait maraudé avec nous, je trouvais qu'il était sincère quand il disait que... C'était quand même... assez poignant, quoi.
Est-ce qu'il y a des personnes qui se livraient comme ça.
Comment ?
Et c'est des personnes qui se livraient, qui,
oui.
qui se confiaient,
oui.
qui avaient besoin de parler.
Oui, ah oui. Après, c'est vrai que moi, je faisais toujours en sorte que je me mettais en retrait avec la personne pour pas que ça soit parlé devant tout le monde. Et oui, c'est vraiment des moments. Et c'était ma chance, en fait. J'étais un peu à part de l'équipe puisque moi, j'étais pas dans le camion. Et du coup, ben, quand je voyais que quelqu'un avait envie de me parler, ben, je disais, bon, viens, on va aller un petit peu. Alors, pas trop loin parce que mes collègues avaient besoin d'avoir un regard sur moi. Mais suffisamment en retrait pour que la personne puisse me parler de ce qu'elle voulait, quoi. Comment ?
Il puisse se confier.
Oui, se confier, oui, 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 c'est ça. Ouais. Après, c'est des personnes qui n'aiment pas trop parler d'eux, hein. Il faut le savoir. Hein. Moi, j'ai vite appris ça.
Parce qu'ils ne s'estiment pas, probablement.
Ouais. Mais... ils ne s'estiment pas, exactement. Oui. Tout à fait, madame, ouais. Tout à fait. Et du coup, il faut apprendre à respecter ça aussi, parce que... Même au début, j'avais l'impression que j'avais créé un lien et j'ai vu que j'étais allée trop loin avec la personne et la fois d'après, ben, le monsieur faisait semblant de ne pas me voir, quoi. Je voyais qu'il évitait mon regard parce qu'il avait peur que je lui dise, ben, alors vous en êtes où dans votre recherche de travail ou, parce que c'était un monsieur qui vivait dans sa voiture et qui m'avait dit qu'il allait à un poste chercher du travail et je pense qu'il ne l'avait pas fait parce que bon, forcément, ils sont... Bon, des situations d'échec, plus, hein. Et j'avais l'impression que qu'il avait peur que je lui demande, quoi. Alors du coup, j'ai dit, oh là là, dans quoi je suis rentrée. Et du coup, j'ai appris à... Ben, j'allais pas vers lui, quoi. Je dis bonjour, mais j'allais pas le mettre à mal, quoi. C'est pas la peine. Donc oui, il y a des gens qui ont du mal à... Forcément, ils vont se sentir jugés, même si on est bienveillant, hein. Ils ont une telle petite estime d'eux-mêmes que... Ouais.
Et toi, tu as rencontré des gens qui écrivaient justement dans la rue aussi ? Est-ce qu'il y a eu un partage ?
Peu. Non, je crois pas que j'en ai rencontré, mais il y en a certainement, hein, parce qu'ils disent pas tout. Hein. Mais peu. Plutôt lecteurs qu'écrivains, ouais. Mais c'est possible qu'il y en ait. Hein.
Ça me rappelle un soir où tu as eu le flash aussi, au l'ethnocafé, quand il y avait deux personnes qui sont arrivées. Je sais pas si tu te rappelles, ils étaient, ils étaient là.
C'était Yo.
Non,
ils étaient tout le temps Yo.
Ah, Yo, oui, voilà. Ah oui, on était tous là, finalement. Ouais. Je sais pas comment ils avaient eu ton mail. Enfin, je trouverais intéressant, peut-être si tu souhaites raconter ce qui s'était passé. Mais ça avait été une soirée, je trouvais animée. Moi, je le trouvais très poétique, ce... Cet homme, en fait.
Il était plus ou moins à la rue, hein, c'est
je
ça
crois qu'il était
Il était à la rue.
Il était à la rue. Et
pour le coup, il écrivait de la poésie, oui, il peignait aussi.
Oui.
Ouais, et puis il avait un rapport, justement, poétique à la vie.
Oui, totalement.
Et moi, quand il disait que quand il était sous les ponts, mais en fait, c'était merveilleux. Et tout il sentait le roi du monde parce que tout lui appartenait, son espace était très grand. Il racontait le bruit, il connaissait par cœur, je sais plus, c'était le Rhône ou la Saône, il connaissait par cœur son bruit, son. Enfin, je trouvais que.
Et toi voilà, qui
c'est, en... c'est merveilleux parce qu'en fait, il nous montrait. Moi, c'est vrai que dans la rue aussi, finalement, il y a. On veut toujours tout cloisonner et même dans la rue, ils sont tous différents. Mmh. Et donc, on est tous avec des clichés. Et en fait, voilà. Et donc, lui, et ben voilà, il nous montrait un rapport complètement assumé et même heureux. Alors, peut-être pas toujours, mais en tout cas, des expériences heureuses de sa condition. Son malheur est ailleurs, plus lié à la perte d'un fils. Mais voilà, en tout cas, c'est ça, moi, qui m'avait marqué. Et je trouve. Alors, moi, je ne suis pas toujours à l'aise, hein, avec les personnes dans la rue. Je dis toujours bonjour et je souris, mais c'est vrai que quelquefois, tout de suite, il y a l'argent qui vient, et donc, je ne suis pas à l'aise avec cette espèce de transformation-précipitation. Mais quelquefois je sens, Et d'ailleurs, dans votre voix, il y a vraiment ce que vous racontez. En fait, votre voix, votre rythme, votre tonalité, elle est complètement en osmose avec tout ce que vous racontez, en fait, dans le regard, cette temporalité à vous. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont perçues autrement qu'avec les mots aussi. Et je pense que vous renvoyez vraiment aussi beaucoup ça avec ces gens-là. Et moi, quelquefois, je perçois vraiment des maîtres, en fait. Et je me souviens, quelqu'un comme ça, en vacances, en Ardèche, et vraiment, on s'était vraiment vu, et j'ai envie de dire reconnu, que c'était comme sur un autre plan. J'ai vraiment senti ça très fort et que j'avais face à moi un maître. C'était dans sa posture, dans sa structure énergétique, je ne sais pas.
Quoi. Un peu comme une évidence, je parlais d'Yvan. Ouais.
Oui.
Une posture.
Voilà.
Ouais. Oui, corporelle. Oui, le corps et des fois parle plus que le reste. Hein.
Ouais. Ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez le film. J'espère que je ne vais pas déformer le titre. Ça, c'est ma spécialité. L'alchimiste. Je vais décrire, c'est quelqu'un qui a une station-service.
Le film.
Je retrouverai, voilà. Il faut que je ne cherche plus. Mais en tout cas, ce film, ce qu'il décrit, c'est que c'est toute une relation entre un vieil homme qui est à une station-service et un jeune acrobate. Ouais. Et en fait, ça fait partie de ma poésie pour mon rapport au monde. C'est que ce monsieur qui travaille dans une station-service est un vrai maître, en fait. Et va complètement initier ce jeune homme. Et en fait, je suis persuadée qu'il y a des maîtres à des endroits comme ça, des endroits cachés, des postes qui pourraient être insignifiants, qui... voilà.
Et puis moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une part de choix, c'est-à-dire c'est difficile quand on est le riche qui va au devant du pauvre, parce que j'ai eu aussi une expérience auprès de cette population là, et alors il y a des gens en grande détresse, c'est sûr, mais il y a des gens qui sont dans les choix de vie aussi, et
J'en ai rencontré peu, mais quand même.
Je fais le choix d'être SDF à partir de demain, mais en tout cas, par rapport à des carrefours, il y a quand même des choix, et il y a quand même le choix de la marginalité, le choix de le refus de la société, le choix de je ne me suicide pas, mais j'attends, je sors de la société, et ça m'évoque ce que tu dis sur les maîtres, je pense. Et cet homme, c'est vrai qu'il était, alors il a eu un contact un peu pénible, parce qu'il s'était un peu, avec Elia, il a eu des échanges un peu pénibles. Donc il est arrivé, nous on était un petit peu en tension, parce que, et en même temps, il a un peu éclairé la soirée, quoi. Il avait une sorte de présence, il te sortait de la poésie, comme nous on parle de... Et c'était, il y avait, oui, une sorte de... Pour le coup, c'était un peu un maître aussi, cet homme.
Pour moi, alors ce qui est génial, c'est que... On ne se rend pas toujours compte quand on est maître. Mais pour moi, son témoignage, c'était... je l'ai pris comme ça, en fait.
Puis aussi, des fois, les personnes sont maîtres, mais pour toi, c'est un maître. Mais peut-être que pour moi, ça ne représentait pas un maître.
En plus. C'est
vraiment un maître.
On n'est pas dans les mêmes recherches aussi, finalement. Le maître, il faut qu'il en fasse l'élève, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sans lien avec nos recherches, en fait, je pense.
Mais en faisant mes promenades sur les berges de la Saône, je suis toujours frappée par un gros. Il y a deux hommes qui campent sous un pont. Je ne me rappelle plus si c'est le pont Schumann ou un des derniers ponts. C'est. ça fera presque envie. C'est impeccable, c'est d'une propreté. Ils ont leur petite cuisine. Mais ils sont là depuis des années, hein. Ils ne bougent pas. Ils ont l'air heureux. Ils sont bien. C'est extraordinaire.
Ouais, c'est vrai que ça. Moi, je connaissais bien des gens là, au Parc des Chartreux. Et...
Ah oui.
Et voilà. Je sais pas s'ils avaient l'air heureux. En tout cas, à chaque fois qu'ils étaient relogés, ils revenaient. Chaque fois que le groupe se séparait, ils revenaient. Et puis souvent, je passais en vélo. On se faisait un petit coucou. Et puis souvent, les femmes nettoyaient avec le balai. Elles balayaient devant le devant la voiture, quoi. Et c'était, mais c'était, vous voyez où ils étaient,
ces gens-là? Oui, oui.
Ils sont plus là.
Oui. Mais c'était en montant là.
Voilà. Allez, et en fait, bah, la femme, elle faisait le ménage. Elle nettoyait son espace. Et...
Allez.
Bon alors, c'était des conditions de vie difficiles. En même temps, ils étaient visiblement attachés au lieu. Enfin,
ah oui, là, j'avais l'impression, vraiment, ils étaient chez eux. C'était leur... C'est étonnant. Le...
Pia, vas-y.
Non, tu voulais...
Non, j'ai respiré. Comme dans Beaufort.
Essayez de respirer doucement.
J'aimerais raconter... C'est pas forcément exactement, enfin la personne n'était pas dans la rue mais vivait modestement et j'ai une pensée pour lui ce soir parce que il est en Ukraine avec la situation qu'on connaît et c'était un psychologue qui exerçait là-bas et j'ai joué de la musique avec lui pendant des années et donc il est reparti, enfin il a vécu quelques années en France, son fils est venu aussi habiter en France, et donc là il est reparti pour aller voir sa famille donc bon, il a envoyé de l'argent à sa famille là-bas, il a toujours il a eu une grave maladie, enfin, sa vie est compliquée, ça fait des années qu'il n'est pas revu. Et toujours à vouloir vivre modestement mais dignement. Mm-hmm. Et ça me fait penser à toutes ces histoires que tu racontes, ça me fait penser à lui.
Non, moi ce qui m'a aussi frappé dans ce que tu as dit, c'est à quel point en fait il y a un contraste vraiment radical entre le lieu en lui-même. Là, quand tu parlais de l'hôpital psychiatrique qui est complètement, on va dire, délabré, tu vois, on a l'impression qu'on place les gens. Dans des lieux qui rendent malades les humains et qui rendent les soignants malades aussi, en fait, finalement, des lieux très aseptisés, etc. Et il y a ce contraste radical entre ce lieu de perdition, entre guillemets, et puis l'irruption, finalement, du regard poétique. Et à quel point, moi, j'ai bien aimé cette anecdote sur les cris de la personne, en fait, qui était... complètement, on va dire, interprété par la plupart des soignants comme... il y avait un automatisme, en fait, d'énervement, quelque part, par rapport à ce cri. Et en fait, tout le regard poétique, je trouve, que toi, tu apportes, notamment, c'est... Comment dire, c'est qu'à un moment, la poésie, elle se contente jamais de réponses toutes faites, elle va jamais arrêter le sens. Et il y a un effort vraiment... constant, en fait, d'attention et de déchiffrement aussi. Et j'ai l'impression que c'est ça que toi tu donnes et que c'est aussi une manière, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça quand t'en parlais, de survivre toi aussi, en fait, tu vois, dans ce lieu-là, quoi, de créer des ouvertures et des fenêtres, finalement, voilà, qui vont... voilà, moi c'est un petit peu ça qui m'a, qui m'a marqué, tu vois, c'est c'est... Ouais, c'est ce contraste absolument énorme et
oui, les lieux
comment
sont...
le dépasser, quoi.
Ouais. Les lieux sont importants, hein. Enfin, tous les lieux sont importants, là où sont les personnes, et c'est vrai que ça, enfin, je sais que le psychiatre Emmanuel Venet, il m'avait toujours dit, il faut toujours se souvenir de la première fois quand on arrive en psychiatrie, faut jamais oublier la première impression qu'on a eue. Je me rappelle, et c'est vrai que j'avais été marquée par ce couloir. C'était un couloir très particulier. Quoi. Moi, je l'appelle le couloir qui sépare, parce que c'est un couloir avec des murs qui séparent les... très particuliers. Et en psychiatrie, enfin, là, je ne suis plus en unité d'hospitalisation. Hein, je suis plus dans les consultations. Mais du coup, quand je partais en congé, que je revenais, j'avais du mal à revenir. Parce que, justement, j'avais à nouveau ce choc. Et ma cadre, je me rappelle, qui était très bien, cette cadre, elle m'avait dit, Isabelle, il faudra vous interroger si vous vraiment vous avez votre place en psychiatrie. Et sur le coup, bah, moi, je suis pas trop tac au tac. Je me suis dit, pourquoi elle me dit ça? Puis j'ai réfléchi, puis le lendemain, je vais la voir, je lui dis, mais vous savez, le jour où ça ne fera plus rien d'être ici, eh ben, ça veut dire que j'aurais plus rien, enfin, je n'ai j'ai rien à faire dans le soin à ce moment-là. Tu vois ce que j'ai répondu? Le jour où je vais me je vais dire, ah, c'est bien, enfin, je vais plus voir ces murs, je vais plus voir, ben, ça veut dire que j'aurais, je sais pas comment te dire, tu vois,
tu
que
seras imprégnée,
t'es ben, que j'aurais, je m'en fous, quoi, que j'accepte tout comme ça, que ça me choque plus. Donc c'est un prix à payer, effectivement, de travailler dans ces lieux-là, parce que il faut aussi accepter de ne pas vouloir y aller, quoi, entre guillemets, bah oui, de ne pas vouloir y retourner, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'on y va, quoi. Mm-hmm. Et une fois qu'on y est, qu'on a rencontré les patients, bah là on y est, et là on y reste, hein, ça c'est vrai. Mais si on voit ça d'une façon très globale, les lieux, tout ce qui est administratif, hein, les protocoles, et, oh, on n'a pas envie d'y retourner, hein. C'est une lutte un petit peu, je ne dis pas tous les jours, hein, mais humaniser le soin, ben, je ne sais plus qui c'est toi qui est dans une association d'humaniser le soin, c'est vous. Eh bien, dis donc, oui, ouais, là on y est. Hein, ouais. C'est vraiment dans un lieu inhumain, quoi, pratiquement. C'est Deligny, un éducateur qui était instituteur et puis écrivain et poète. Hein, il les a emmenés dans les Cévennes, les enfants autistes. Hein, il a dit, mais ils n'ont rien à faire en psychiatrie. Mm-hmm. Et lui, justement, il a travaillé cet élément poétique. D'ailleurs, c'est un auteur qui te plairait. Mm-hmm. Et vraiment, je pense toujours à lui, quoi. Mais je me dis, oui, c'est vrai, il avait raison de les enlever loin de ces murs. C'est sûr qu'on a envie de les emmener loin, hein. C'est clair que... Parce que comme ces personnes s'habituent à être enfermées, bah après ils sont enfermés dans leur tête et ils veulent plus sortir de la psychiatrie. Nous, on a essayé de sortir des personnes en psychiatrie, de les orienter vers des foyers de vie. Oh, mais c'est catastrophique. Parce que l'enfermement, il est déjà là et du coup, on les met encore plus à mal et... Et c'est très dur de les sortir, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, en fait. Trop longtemps.
Non, mais tu vois, quand je t'entends parler, j'ai presque l'impression que ces lieux-là créent la condition de la maladie.
Ah ben oui.
Et ils l'entretiennent. Et tu vois, quand je t'entends parler, l'évidence pour moi, c'est de... Oui. Je sais pas, j'allais dire, mettre les gens dans la forêt ou dans les Cévennes. Voilà, qu'on se faisait des espaces aérés, je sais pas. Non, et c'est vrai que c'est...
Oui. C'est Après, vraiment... c'est vrai que... comment... Je pense qu'il ne faut pas non plus aussi idéaliser la sortie, parce qu'ils ont besoin de repères. Enfin, moi, je sais, par exemple, je croisais quelqu'un que je ne connaissais pas, mais je le connaissais de vue, on se disait bonjour, quelqu'un qui arrivait de la ville et qui rentrait au Vinatier. Puis il était tout content. Ben, je dis, vous venez en hôpital deux jours. Enfin, après, j'arrivais un petit peu à... Et puis il me dit, il me dit, ah ouais, je suis contente de venir à l'hôpital. Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais moi, le métro, je peux pas, les gens. Ah non, c'était trop dur de vivre à l'extérieur, quoi. Il y a ça aussi, quand même, qu'il faut se... C'est-à-dire que c'est des personnes, des fois, qui sont tellement vulnérables que nous, un regard dans le métro, ça peut les menacer, hein. Ça peut... Et que du coup, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais des fois, les murs, être dans un hôpital, ça... Tout d'un coup, ils vont pouvoir lâcher, quoi, ça quelque chose.
Il y a un cadre contenant.
Oui, voilà, le cadre contenant. Quoi, malgré tout, pas forcément les murs, mais moi j'ai entendu des patients qui me disaient, mais oh, qu'est-ce qu'on est bien à l'hôpital.
Comme la prison pour certains.
En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, que c'est trop dur, la vie à l'extérieur est trop dure pour eux. Quoi. Elle est trop dure, elle est trop violente. Ils pensent que l'hôpital les aide à maîtriser quelque chose de leur espace, de leur mal-être. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Donc,
comment ? Un refuge quand même.
L'asile.
Oui.
Au sens méditerranéen. Donc un refuge. Finalement, je suis en train de me dire, c'est peut-être une autre façon de s'extraire de la société. Tout à l'heure, on parlait des SDF qui ont quand même cet aspect un petit peu asocial. Hein, enfin, je veux dire, de choix, entre guillemets, autant que les choix de l'être humain sont des choix, enfin voilà, dans nos choix d'être, dans nos choix existentiels, quelle est la part de choix volontaire et quelle est la part de... Voilà. On y est d'une façon qui, des fois, nous échappe à nous-mêmes, dans nos choix. Hein. Donc, cette précaution-là étant prise, il y a cet aspect de choix de se tenir à la marge. Peut-être que l'hôpital a cet effet-là, de refuge par rapport à devoir s'auto-porter comme individu, auto-déterminé, et adaptable, enfin inscrit dans un travail, dans un lieu, dans une, avoir une adresse, avoir une carte d'identité, avoir un code PIN, avoir je ne sais quoi encore. Moi, je vais vous dire quelque chose qui peut me paraître choquant. Mais j'ai toujours pensé que n'importe qui d'entre nous pourrait être dans la rue à la place de ces personnes. Je pense qu'on peut très très vite, finalement. Garantit. Il y a des événements qui font. Il y a des événements dans la vie, parfois, qui font qu'on peut perdre le pied très rapidement. Donc je trouve que les personnes qui regardent ces gens qui sont dans la rue, comme des. Je ne sais pas en fait, je ne peux même pas exprimer, mais qui les regardent comme s'ils étaient des étrangers finalement, comme s'ils n'avaient rien
d'humain.
Pas d'humain, ou en tout cas de quelque chose qui soit en rapport avec eux-mêmes, ou un reflet ou quelque chose. Bah, c'est des êtres humains comme nous, enfin comme tout le monde. Et moi, j'ai toujours pensé vraiment qu'on peut être tous très très vulnérables, et finalement. Être à leur place demain. Hein. Enfin, voilà. Bon, après, il y a peut-être des facteurs, des choses. Je ne sais pas. Après, on a parlé de choix pour certains. Je ne sais pas si c'est vraiment des choix. Après, il y en a qui disent qu'ils se sentent libres comme ça et qu'ils seraient incapables, finalement, de se réadapter, entre guillemets. Enfin, voilà. Je ne sais pas où est la liberté. Je ne sais pas si nous-mêmes, nous sommes libres dans nos vies. Je ne sais pas. Ça interroge aussi, je veux dire, non, mais la place de chacun finalement sur cette terre. Parce que quelqu'un qui n'a pas de domicile, c'est quelqu'un qui n'a pas de place sur terre aussi. Et on peut avoir une maison, un toit, et ne pas avoir de place non plus. Donc je veux dire, c'est des choses pour moi qui sont universelles. Quand je vois quelqu'un dans la rue, je ne me dis pas, tiens, c'est un SDF, ou c'est un marginal, ou c'est quelqu'un qui est... Alors oui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans notre société telle que on l'a conçue, avec les codes, etc. Mais c'est quelqu'un qui a sa propre existence, qui a sa propre sensibilité, qui a sa propre histoire, on a tous notre histoire. Et en quoi moi, je dois le juger, ou me dire que moi je suis du bon côté, et que lui, il n'est pas du bon côté, ou des choses comme ça. Enfin, moi, ça me choque toujours, regard qu'on peut poser sur ces gens-là. Mais même soi-même, hein, rapidement, comme ça, hop, moi. Donc, voilà. Mais ça m'interroge toujours, parce que je me suis toujours dit que ça pourrait être n'importe qui, en fait. Bon, je sais pas. Mais ça me révolte un peu, en fait. Moi, j'avais rencontré des SDF, j'avais fait un documentaire sur deux SDF que j'avais rencontrés à Lyon. Et justement, ce qui en ressort et que je n'arrivais pas à exprimer à cette époque, parce que ça fait quand même longtemps, c'est qu'ils m'avaient éblouie par leur vérité.
j'avais posé ma caméra, voilà, sur leur visage. Et déjà, leur visage, c'était un paysage, quoi. Enfin, ils parlaient, c'était incroyable. Et justement, c'est le mot, la poésie qui émanait d'eux. Ces moments de poésie que la caméra avait capté finalement. Et moi, quand j'ai revu les images, etc., j'ai vu des enfants. J'ai vu des enfants, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu l'innocence des enfants. Voilà, les... non façonnés par... Je sais pas. J'ai vu des enfants et j'ai appelé d'ailleurs ce documentaire « Tomber du ciel » parce que je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça de... Je sais pas comment expliquer.
D'inattendu. Que...
D'inattendu, d'immédiat, une immédiateté, quelque chose qui ne trichait pas. Voilà, qui trichait pas et qui était extrêmement forte, quoi. Donc ça, c'est peut-être aussi voilà, des moments poétiques ou des... Je sais pas, mais ça m'avait vraiment marqué.
C'est quand j'étais en Italie... Avant de venir en France, j'ai parlé, je m'arrêtais souvent à parler avec des SDF et tout. Et j'ai posé plusieurs fois la question, mais pourquoi tu ne cherches pas à changer un peu ton sort, trouver une maison, un travail. Et la plupart, ils m'ont répondu, je me rappelle tout le temps, ils disaient, mais moi je suis bien comme ça.
Comment ?
Je suis bien comme ça.
Ah ouais.
Je lui dis, mais est-ce que ça t'est arrivé quelque chose pour être arrivé là ? Non, non, c'est mon choix. Donc il y a plusieurs. C'est vraiment leur choix de vivre dehors de cette façon. Et ça m'a choqué. Parce que j'ai essayé de me mettre à leur place. Et j'arrivais pas du tout à y penser comme eux. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des... Non, peut-être. Il y a des gens qui pensent comme ça, donc on ne peut rien y faire. Et malheureusement, pour nous, même si ça nous fait de la peine, de les voir dans ces conditions. Mais en fait, au fond, je pense que pour eux, c'est bien comme ça. Donc, des fois, oui, on peut avoir de la peine parce que quand il fait froid, surtout quand il neige, ils sont sur un petit carton, là, oui, ça te fait vraiment de la peine parce qu'ils ne sont pas à l'abri, quoi. Mais après, bien ils pensent, si tu penses bien, je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver les...
Éviter de faire une projection et se dire le pauvre, parce que moi j'aimerais pas être à sa place, et qu'au final lui s'il y est bien...
Ouais, non, ouais, c'est non. Pas ça, mais... À la fin, quand tu parles avec des gens comme ça, il faut juste essayer de les écouter et de rien dire d'autre, quoi. Parce que c'est leur choix. Donc, tu peux rien y changer, quoi. Je pense.
Oui, pas donner des leçons, voilà. Finalement.
C'est pas des gens, surtout, qui peuvent lui donner des leçons, parce que je pense que c'est eux qui ont besoin de leçons.
Moi, je pense aussi que, des fois, j'ai l'impression même que, même eux, ils doivent se dire, en nous regardant, les pauvres, en fait. Parce que ils sont vraiment dans la vie, quoi. Comme justement des enfants qui sont vraiment dans la vie. Et il y a l'instant présent, et nous, on est en train de courir comme ça. Ouais. On sait même pas où on va, des fois. Alors, c'est vrai que je pense que... Il y en a même qui doivent se dire, mais les pauvres, ils ont rien compris à la vie, ou ils sont en train de marcher sur leur tombe, peut-être. Donc, je pense aussi que... c'est pas toujours facile, mais je pense que ouais, ça doit trouver aussi une autre part de la vie que nous, on l'a pas des fois vraiment compris, quoi.
En tout cas, je pense qu'on leur donne pas envie de vouloir changer. Se changer pour ça.
J'ai fait l'expérience une fois, j'ai croisé une de mes patientes qui faisait la manche, une jeune fille roumaine à Et du coup, bon, je la connais, ben, on se connaît bien, et du coup, j'ai discuté avec elle, et puis elle était assise, moi j'étais debout, et j'avais le temps, je me suis assis à côté d'elle. Donc en plus, ça m'a fait mourir de rire d'être assise avec son médecin, donc on rigolait, et puis. Et en fait, j'ai vu le regard des passants. Et en fait, j'étais vraiment surpris du regard réprobateur des patients. Pas des passants. Et tu vois, quand tu dis ça, et moi, je pourrais paraître roumain, donc je pense que beaucoup pensaient qu'on était deux roumains. Et tu vois leur regard, t'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que t'as, connard, quoi. Tu vois, enfin, moi, t'es un gros con, quoi. Tu vois des gens qui te regardent vraiment comme. Bah, c'était pas bien. C'est vraiment le regard, c'est pas bien. Mais c'était quasiment tous. Enfin. Moi j'étais vraiment étonné de ça. Pourquoi ils me regardent comme ça en fait? Et alors, moi franchement, je serais resté plus longtemps, je me serais énervé. Mais je pense qu'il y a plein de gens, ils sont complètement résignés. Voire ils sont habitués, voire je sais pas, peut-être que c'est un regard normal. Je trouve que c'est terrible en fait. Moi c'est un souvenir.
Mais je crois qu'il y a un auteur comme ça qui dit justement, qui dit qu'on n'oublie jamais, quand on était dans la rue, on n'oublie jamais le regard de mépris sur nous. Jamais. Même si on remonte un jour, ouais. On n'oublie jamais. Donc je pense que non, le regard ne glisse pas, je crois pas. Non.
Et cette gamine, en fait, elle me racontait qu'elle est née dans une voiture. Mais enfin, c'était pas ici, mais pas loin. Elle est née dans une voiture. Sa vie, c'est que la voiture. Et tu vois, c'est son existence, quoi. Alors je fais pas de commentaires, mais. Elle est complètement. C'est son seul cadre de vie, c'est la voiture.
En même temps, c'est pas.
Et en même temps, elle est géniale, je l'adore cette nana. Elle est super.
Un peu une vie comme nomade. En fait, avant, d'être née dans un endroit précis, de manière sédentaire, c'était presque rare. Avant, c'était tous nomades. C'est vrai qu'aussi, on l'a complètement inversé.
Ouais, complètement. Ouais.
Est-ce que c'était une Twingo? La voiture. Pour savoir si elle est née dans la meilleure voiture du
monde. C'est la même voiture.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, puis moi, ça m'amuse toujours que nous, les riches, dès qu'on est en vacances, on va aller au camping, tu vois. Enfin, moi, j'ai un van, je dors dans ma voiture et je trouve ça génial. Encore une fois, j'en vis pas à sa vie, là, c'est quand même très compliqué. Puis surtout, c'est ce regard permanent, quoi.
Très compliqué.
Si tous les gens la regardent comme ça tout le temps, comment tu.
Il l'intègre.
Hein, c'est ça qui est terrible. Ouais. Elle sait pas tenir un crayon, cette nana, tu vois. Alors, on peut peut-être vivre heureux sans tenir un crayon, mais c'est quand même un peu compliqué.
Et comment se construire aussi, d'avoir le regard. D'avoir un regard comme ça, après comme un regard sur soi-même.
Mais en même temps, ce qui est magique, c'est qu'elle est. Elle est cool. Enfin, je l'aime bien, quoi. C'est-à-dire qu'elle est. C'est pas une pauvre mère comme ça, quoi. Elle est hyper péchue, elle est rigolote, elle est vraiment des gens très, très drôles, en fait. C'est ça qui est magique, c'est que malgré ce regard, enfin c'est un mystère pour moi, malgré ce regard méprisant quotidien, en fait, c'est des gens qui sont qui sont sympas, qui sont cool, quoi.
Bah, elle est libre de notre regard, quoi, du coup.
Je sais pas quelle est la situation.
Ouais, au bout d'un moment, elles font même pas attention. Faut même plus attention, je pense.
Après, il y a quand même des très belles histoires. Hein. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont une très belle histoire avec des gens dans la rue. Moi, alors je pense aussi, on peut vivre plein de choses. Moi, c'est souvent que je vois des gens parler à des sans-domicile fixe. Je trouve qu'il y a aussi des très belles choses quand même. Et moi, j'ai un autre regard, en fait. J'ai un regard qu'au contraire, il y a beaucoup de choses... qui font pas de bruit mais qui se passent et qui se tissent parce que après voilà avec tout ça quand on se dit mais qu'est-ce qu'on fait en fait en tout cas je pense que faut essayer de trouver le chemin de la relation qui à chaque fois est unique et fragile et qui et puis cette fragilité elle est il y a ce cadre qui peut être l'hôpital psychiatrique, qui peut être la prison, qui peut être la rue. Mais en fait, déjà ça, pour moi, c'est partout en fait. Je suis dans un immeuble, un HLM, et ben en fait, il y a une très grande fragilité qui tient à rien pour que ça dérape. Beaucoup ont des histoires très compliquées, et puis ils sont dans le très compliqué. Sont vraiment à la limite. Et pourtant, comment créer du regard, comment créer du lien qui presque n'a pas à voir avec nos histoires différentes, mais c'est une histoire commune et comme sur une page blanche. Et en fait, pour moi, tout ce que vous racontiez, en fait, c'est un idéal, en fait, très concret, vécu et tout, mais que finalement, moi, j'en retiens que qu'on peut déjà le faire de partout, en fait, essayer de partout, même avec même avec un caissier ou une caissière, même parce que oui, on peut tous être dans la rue, on peut tous être en hôpital psychiatrique, on peut et du coup c'est peut-être travailler notre lien finalement et notre présence, et cette présence, alors en tout cas c'est très rassurant de vous entendre, parce qu'on se dit qu'il y a quand même du temps qui peut être donné aux gens qui travaillent. Mais en tout cas, cette présence, elle se fait par le temps et par une certaine, certaine, pas régularité, mais en tout cas, aussi quelquefois plusieurs bouts mis ensemble, quoi. Et puis, d'aller chercher le point de rencontre avec une espèce d'humanité commune. Et ça, ça je le vis même dans mon immeuble, en fait. Parce que non, mais vraiment, on a drogué, bracelet, vraiment quoi. Et pourtant.
Comment
mettre les bracelets électroniques. Pardon, on a vraiment, beaucoup de choses. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui. Alors, quelquefois, ça dérape. Mais qu'est-ce qui fait que ça tient et que ça. Et ça, déjà, c'est un espace de recherche pour moi, cette cage d'escalier. C'est comme l'immeuble. Et franchement, des fois, ça tient à rien. Et le regard et le bonjour et tout, et ben en fait, c'est énorme.
C'est très important.
Énorme,
c'est sûr.
Énorme. C'est. Se rendre service aussi. Tout d'un coup, c'est un truc commun. C'est un truc. Voilà.
Une chose c'est sûre, que même dans la cage des escaliers où vous êtes, il y a de la poésie aussi.
Oui, d'ailleurs, l'autre fois, j'ai photographié un petit cœur qui était caché, que personne n'avait vu. Mais oui, il y a de la poésie qui se crée. Et quelquefois, c'est même la même personne qui a mis tout l'immeuble en live. Et voilà. Et toujours s'y recroire que c'est faire quelque chose de beau entre nous. Parce que des fois, Madeleine, on a une, parce que ces histoires, il y en a un qui a mis le feu dans la poubelle, qui l'a mis devant sa porte, qu'il y a le feu. Enfin, vraiment des trucs chauds des fois. Hein. Et voilà. Et toujours recroire, essayer de retrouver où est-ce que ça peut faire histoire commune. Et j'ai envie de dire caresse dans ces choses difficiles, en fait.
Vous savez, Prébédé, tu avais proposé que les gens lisent des textes. Comment
est-ce que l'on va peut-être
arriver à un petit poète, on peut peut-être conclure comme ça, tu vois.
Oui.
C'était ton.
Oui.
Tu peux dire ton intention.
Ah ben c'était par rapport au poète qui disait qu'on avait tous un poème qui brûle au fond de nous, et puis je m'étais dit tiens, terminer par un partage aussi.
Je vais juste finir, vous remercier moi pour le témoignage en psychiatrie avec Thibault. Je trouve qu'il y a plein d'espérance dans la relation de soins, parce qu'on prend le temps du coup de souligner tout ce qui est invisible dans la relation, en fait. Mais il faut prendre le temps de voir ce qu'on ne voit pas. Et je trouve que ça rend très humble dans la relation de soins, en fait, il y a nous ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Et on est des chercheurs dans le soin de plus de vie en face de nous. Et je trouve que c'est bon de tenir cette invitation-là à garder en mémoire tout ce qu'on ne voit pas dans la relation de soins, quoi. Et de prendre le temps, des fois, de le mettre en mots, quoi.
Oui,
et
puis aussi voir que l'autre, il voit aussi beaucoup de choses.
Oui,
c'est ça qu'on ne peut pas oublier. Et dans la relation de soins, c'est là, on oublie ça. On oublie du côté du patient. Ouais, on oublie beaucoup que le patient, même dans un lit ou même très, très régressé, il voit beaucoup de choses et il sent beaucoup de choses. C'est ça qu'on oublie souvent. Ouais.
Même s'il si ne fait pas remarquer qu'il regarde.
Oui, même s'il n'a pas. Oui, même si. Oui, il n'a pas. Donc, ça, on est responsable vraiment de tout ce qu'on fait dans le soin. Enfin, moi, pour moi, c'est ça. On est responsable de comment on approche la personne, qu'est-ce qu'on dit devant elle, comment on le regarde. Dans tous les petits détails, justement, des fois, c'est là où ça. Où c'est quand même très important.
Oui, mais aussi inversement, tout ce qu'on ne voit pas,
oui, qui nous échappe
et qui va acter dans le soin.
Tout à fait. Ouais. Mais des deux côtés, ouais, moi je dis, voilà, c'est ça, c'est à deux que ça se fait. Et que c'est parce que ce qu'on observe sur l'autre qui nous aide, nous, à nous corriger aussi. Enfin, moi, je m'appuie beaucoup là-dessus, sur mes observations sur le patient, pour moi, me moduler, ouais, m'ajuster. Ouais. On ne s'impose pas, en fait. On apprend de l'autre.
Tu veux dire un mot sur les.
Si vous aviez.
Quelqu'un. Vous avez amené des petits textes ou pas,
quelque chose,
ouais.
Ou pas.
Non. Personne qui en a. Qui en a.
En fait, vous avez envoyé un petit mail en vous proposant de si vous vouliez amener un petit extrait de poème ou un petit poème, c'était.
Bah, peut-être ceux qui ont. De Diana, tu veux partager
ou... Oui, alors. Enfin, moi, il y a une symbolique. Parce que effectivement, quand j'ai vu en fait le thème, la notion de lien à l'autre, ça m'a ramené à notre état de nature en fait. J'ai pas choisi un texte qui me transporte depuis des années. C'est un texte voilà qui est tombé avant-hier et c'est sur un magazine qui est sorti ce mois-ci en fait sur les arbres, et je trouve très fort cette image aujourd'hui parce qu'on a parlé pendant des heures de personnes qui, quand on regarde un SDF, la dignité qu'il va lui rester, c'est quand même d'être à même le sol, recroquevillé dans des positions de corps très particulières, et je trouve que voilà la notion d'arbre, c'est lui redonner aussi cette position d'être debout, tenir debout, d'être toujours partie de la société finalement. Et donc, pour exprimer tout ça, mon regard s'est porté, mon émotion sur un texte de Sioran, en fait, de l'inconvénient d'être né. Il y a quelque chose de sacré dans tout être qui ne sait pas qu'il existe. Dans toute forme de vie indemne de conscience. Celui qui n'a jamais envié le végétal est passé à côté du drame humain.
Je peux redire la dernière fois ?
Celui qui n'a jamais envié le végétal est passé à côté du drame humain. Moi, ça me touche dans le sens où c'est comme si on ne donnait pas vie finalement au végétal, mais quelque part avec nos regards. Et quand on se questionne, enfin, moi je me questionne beaucoup sur ce fameux bonjour, le regard que je porte, le voyeurisme, l'effet miroir que ça peut me donner de voir cette personne dans cette condition, et jusqu'à quel point finalement je reconnais cette personne, je lui donne vie, existence. Je me dis que voilà, peut-être parfois c'est comme si on considérait ces personnes comme des végétaux. Sans voir le drame humain qui se joue. Enfin, voilà.
Merci.
Merci.
À d'autres choses à partager ou...
Moi, j'ai un petit truc, mais je ne vais pas le dire parce que je suis toujours très émue quand je lis.
Tu peux pleurer, ici. Hein. Bah attends, tu peux pleurer.
Il n'y a pas de choix. Ah, hein. Pleure pas,
c'est grave. Ah,
si, en plein.
Ah, non, mais ça me fatigue. Je commence et... Non, je ne vais pas y arriver.
Tu es jalouse pour toi?
Oui, bien sûr.
Quelqu'un. Oui,
je sais pas si t'as eu besoin de lire, t'as pas eu le temps.
Ah, tu me l'as envoyé?
C'est un extrait d'un livre que j'ai découvert ce week-end. Ah. Ça se lit assez facilement, il n'y a pas besoin.
Mais pleure facilement aussi.
C'est pas vrai. Un matin, le bruit du pot d'eau qui éclate dans la tête fait germer une goutte de poésie.
réveille l'âme et lui confère sa beauté. C'est le moment de dire l'indicible. C'est le moment de voyager sans bouger. C'est le moment de devenir poète. Ne rien enjoliver, ne pas parler. Regarder et écrire, en peu de mots. 17 syllabes, un haïku. Un matin, on se réveille. Il est temps de se retirer du monde pour mieux s'en étonner.
C'est neige. Je me disais aussi, 17 syllabes en haïku, c'est neige.
Moi, j'ai un petit poème aussi, mais enfin, je vais lire juste la fin. Mais... Je vais le livrer brut comme ça. Mais je vous connaissais mieux que je n'ai connu d'homme. J'entendais le silence de l'éther. Aux mots des hommes, je n'entendais rien. Mon maître fut l'harmonie du bois qui murmure, et j'ai appris à aimer parmi les fleurs. C'est dans les bras des dieux que j'ai grandi.
Ah, c'est bon. C'est de qui?
Oh, le Darling. Un qui s'appelle Lorsque j'étais enfant. C'est juste la fin du poème.
Ça me disait quelque chose de parler des terres et tout. C'est le poète qu'on avait vu.
Ouais, c'est ça. Les terres, c'est le ciel.
J'aurais une phrase. Je crois que c'est Nietzsche, mais je ne sais absolument plus. C'est par rapport à l'altérité, justement, d'autres, notamment en psychiatrie, où on a affaire à des extraterrestres par rapport à nos façons. Il n'y a plus conventionnel de fonctionner. La fameuse, quand on regarde dans les abysses, il ne faut pas oublier que les abysses nous regardent aussi. Et, l'histoire que vous aviez racontée avec le retour de la personne autiste, qui s'est sentie de vous remercier, et ça pour un autiste comme ça, je trouve ça assez impressionnant. Et de savoir aussi que du coup, il y a une activité, même dans ce qu'un œil qui n'est pas entraîné ne peut pas voir. Quoi.
Merci.
Ah, j'avais juste un petit truc, mais après.
Bah, vas-y.
Le ciel est pur où qu'il soit. Le vol des étourneaux plus fin que les cils d'une jeune fille. Ces étourneaux jaillissant de nulle part, par grappes tournoyantes, vibrant dans l'air mauve comme sur les ondes d'une eau mystique, explosant par centaines à la surface de mes yeux, piaillant, saluant la nuit qui vient. Pourquoi désespérer? Il suffirait d'avoir la patience et la paix blonde des grands champs de blé, leur consentement aux grâces mouvantes, du vent et des lumières, et que nos cœurs, chaque jour, s'ouvrent à la fraîcheur et à l'éclat des coquelicots.
Merci. Non, ça me fait sourire parce que finalement, c'est comme si on finalisait sur la nature.
Ouais.
Pour ça.
Ouais. C'est...
Ouais.
Comme si.
En fait, on finalise, je trouve, cette soirée sur la nature.
On a beaucoup parlé des hommes et on a beaucoup parlé des hommes.
Avec les coquelicots.
Non, on marque la nature.
C'est très beau de voir un champ. Surtout derrière,
c'est très rare. La contemplation de la nature.
Il y en avait plus qu'aujourd'hui. Les coquelicots, quand on voit un champ.
Rouge, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai que c'est.
Ça revient. J'ai trouvé que ces dernières années.
Mais oui, c'est vrai. On en revoit. On en revoit.
D'autres choses. Vous n'aviez pas, eu l'info.
Oui, je voulais juste dire que c'est des moments précieux, ces invités poétiques dans nos pratiques, et puis fixés par l'écriture, c'est très important que tout le monde puisse le voir, parce que les journées en institution sont hyper chargées. On est percuté par beaucoup d'événements et situations, et que si on n'a pas compris qu'on a aussi ce temps qui est suspendu, dans un temps qui pourtant est très très rythmé. Moi je vous remercie Isabelle, parce que ça nous permet dans cette écriture de considérer aussi que nous professionnels on aspire à ces moments qui sont stoppés et qui sont
qui sont denses dans la relation et qui, au jour d'aujourd'hui, se réduisent à des peaux de chagrin, malheureusement, et nous font perdre la fluidité, même dans ma présentation tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est complètement saccadé, parce qu'au bout d'une journée, ben, on n'arrive plus trop à articuler et à faire lien, justement, et qu'on n'est pas, on est dans un rythme assez effréné, et pouvoir écrire ces moments précieux, et effectivement pointer que ça fait partie d'un accompagnement très soignant et d'un retour vers une relation ordinaire humaine. Voilà, tout le monde devrait lire. Alors il faudrait vraiment faire beaucoup de publicité pour que nos décisionnaires s'arrête pour lire ça. Et faire le lien avec effectivement le livre que l'ethnocafé permet de faire pour les résidents et qu'on accompagne et les soignants. C'est juste de l'essentiel qui revient et qui est très très important. Je voudrais juste rajouter, mais là je fais un peu de publicité encore un peu plus, c'est qu'un instant poétique va arriver à nouveau au TNG dans le deuxième. Je me permets, Isabelle, de dire, puisque du coup ça fait lien aussi.
Bah oui.
Dans le deuxième, du coup, il y a une représentation par ces résidents qui ont écrit, qui se mettent en scène, et c'est pas rien, accompagnés par deux comédiennes. Et dimanche, à 16h, au TNG.
À 15h.
C'est ce dimanche-là, c'est ça?
Oui. Rue Petit David.
C'est le
GU. Ça s'appelle Les Ateliers.
Une régénération.
Et c'est les ateliers, la salle.
Cette pièce, on l'a vue et franchement,
c'est magnifique.
C'est magnifique.
L'instant poétique, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est
Non, tu l'appelles. Non, c'est la roue.
La roue de la fortune?
Non.
La roue panoramique.
La roue karmique.
Non, peu importe. Si on dit c'est Henri, c'est à 16h.
Mais les noms de la pièce, c'est.
Tu te rappelles plus
du nom? Non, mais
non, mais ça se trouvera,
je crois que c'est marrant parce que moi j'ai jamais non plus, j'ai jamais visualisé le titre, je ne sais pas si elle a un titre cette pièce. C'est pas la roue de la fortune, non? Parce que au centre, il y a. Non, la roue de la fortune, c'est pas très.
Non, c'est
pas très poétique.
En tout cas, voilà, on vous conseille, c'est estampillé. Recommandé par les trucs. Franchement, c'est.
Ouais, je ne voulais pas voler la place, Isabelle, juste dire que ça fait lien. Parce que.
On va remettre à
défendre. Partager les mêmes choses. C'est pas génération en scène. Mais...
Donc, n'hésitez pas à partir.
C'est pas génération en scène.
À partir accompagné de la poésie d'Isabelle.
Parce que c'est toute la semaine que ça a duré.
Et un petit mot sur l'apéro, peut-être.
Ouais. Le vernissage. Donc là, c'était la dernière rencontre de l'année sur ce format.
C'est ça.
C'est dans le cadre
d'une semaine
amateur.
Bah, du coup,
Oui, bah.
Elle est vachement dissipée. Hein.
Elle n'a pas parlé, mais elle attend la fin.
Elle a attendu, en fait, pendant 2 heures.
Elle est hors cadre.
À partir du travail donc, on fait avec les résidents du Petit Caillou, qui vont donc jouer au TNG dimanche à 16h. Donc on fait un apéro vernissage ici le 17 juin. Ce sera notre toute dernière rencontre de l'année. Voilà, on va terminer sur une note artistique et conviviale. Donc après, on repartira pour un nouveau programme l'année prochaine à partir de septembre.
a été surprise.
Avec
le jingle.
Les invités.
On va revenir nous du
coup. Ça va être
excellent. Cette affiche.
Mais là, de plus en plus. Hein. Et y a un livre d'or, voilà, un peu, c'est la pièce un peu oubliée à chaque fois, mais cette fois je m'en souviens. Donc il y a un livre d'or juste là, donc si en partant vous avez envie, voilà, d'écrire un petit mot, une phrase, ou quoi que ce soit qui vous a touché ou autre, mais il est là pour recueillir un petit peu la mémoire aussi de ce qui se passe ici. Voilà. Et la chaussette. Vous voyez, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément familiarisé avec le concept, mais cette merveilleuse chaussette qui pendouille là, elle vous fait du pied, elle vous appelle parce que bon, c'est là où on glisse les sous, éventuellement. Donc vous pouvez laisser ce que vous voulez.
Elle préfère les billets quand même.
Alors oui, moi j'ai remarqué.